avec Baptiste Gabory.
8h35, bonjour Baptiste Gabory.
Bonjour Gaël, bonjour à tous.
On en a parlé avec Jean-Éric Brana. Une femme revient beaucoup dans vos journaux ce matin.
Liz Cheney, 56 ans, ex-étoile montante du Parti républicain américain. Elle vient d'être battue dans la primaire républicaine organisée dans le Wyoming, où elle avait été élue en 2016, puis réélue en 2020. Que s'est-il passé? Liz Cheney est devenue entre-temps l'égérie des républicains anti-Trump. Elle a voté en faveur de la destitution de l'ancien président après l'assaut contre le Capitole du 6 janvier 2021. Elle a aussi accepté de prendre la vice-présidence de la commission d'enquête sur l'insurrection. Le jour de la première audience, elle lâche à ses camarades du parti. Viendra bien un jour où Trump ne sera plus là, mais votre déshonneur, lui, demeurera. Résultat, mardi, elle n'a pas fait le poids face à sa concurrente républicaine soutenue par Trump. Battue, Liz Cheney poursuivra sa lutte, titre Le Monde. Défaite, Liz Cheney n'a pas dit son dernier mot, c'est dans le Figaro. Contre Donald Trump, Liz Cheney prend défaite et cause, titre de son côté Libération, car la républicaine assure que sa croisade contre Trump va se poursuivre. Sous quelle forme cela pourrait la conduire à briguer la présidence en 2024, explique ce matin le Figaro. Elle s'est d'ailleurs bien gardée de flamber la totalité des 13 millions de dollars levés pour sa campagne dans le Wyoming, rappelle Libé. Elle pourrait ainsi, poursuit le Figaro, tenter de barrer la route à l'ex-président en s'affichant comme indépendante dans la dernière ligne droite. En attendant, sur les 10 députés républicains qui avaient voté en faveur de la destitution de Trump, 4 ont été battus aux primaires, 4 ont préféré ne pas se représenter, seuls 2 ont gagné. Signe, rappelle Le Monde, de l'emprise que conserve l'ancien président sur le parti républicain. Et si Donald Trump revenait, s'interroge d'ailleurs ce matin le Parisien.
Et il est question d'un autre retour dans le Parisien, toujours.
Je veux retourner un jour chez moi, citation d'Aliza, ukrainienne réfugiée en France, à la une du Parisien aujourd'hui en France. Ils sont désormais plus de 100 000 Ukrainiens à avoir posé leurs valises dans l'Hexagone. Des déracinés en sécurité mais tétanisés, écrit Vincent Mongaillard, redoutant l'annonce d'un proche blessé au front. Le séjour loin de leur terre, qui devait être éphémère, s'ancre dans la durée. 3 témoignages dans le Parisien. Oleg, qui est arrivé avec sa femme et sa belle-mère. Aliza, donc, 33 ans, réfugiée avec ses 3 enfants. Elle est hébergée dans le Vaucluse. Ces derniers jours, elle a découvert les plages du Var. Ses 2 aînés vont faire leur première rentrée scolaire en France. « Je suis tombée amoureuse de votre pays », dit-elle. « Je ne pensais pas être aussi bien reçue. » Mais elle espère donc rentrer un jour dans son pays, retrouver son mari. On avait une belle vie. Galina, elle, se demande si elle ne va pas refaire sa vie ici, en France. Elle a trouvé un travail dans une pâtisserie portugaise à Lille. Sa fille entre à l'université à la rentrée et son mari est arrivé en France il y a 2 semaines. Pour elle, l'avenir semble se dessiner davantage à l'ouest qu'à l'est.
Les conséquences de la sécheresse se multiplient.
Je vous parlais ici même du manque d'eau dans le Rhin, avec des péniches obligées de naviguer avec 25 à 35% de leur charge habituelle. Les entreprises allemandes se préparent au pire, relate les Échos ce matin. Le pire, c'est l'arrêt total de la circulation, d'autant qu'un convoi fluvial est tombé en panne hier dans la région de Koblenz, à Metz. Premier port céréalier de France, les péniches ne sont chargées qu'à moitié. Le port a vu plonger ses expéditions de céréales. Des fleuves en manque d'eau et des moules trop petites. À lire dans le Parisien ce matin, les moules de Bouchot AOP du Mont-Saint-Michel viennent tout juste d'arriver sur les étals avec 1 mois de retard. Il n'a pas plu ou presque au printemps. Or, ce sont les eaux de ruissellement qui amènent à la mer les sels minéraux essentiels pour la nourriture des petites moules, explique un mytiliculteur. Il estime que sa perte pourrait atteindre 20% de sa production cette année. La végétation, elle aussi, est éprouvée par le manque d'eau. C'est dans le monde. Les arbres, notamment, qui stoppent leur transpiration dès qu'il manque d'eau. Les feuilles vont se flétrir, jaunir, voire tomber. Phénomène d'ailleurs déjà en cours dans nos villes.
Nous sommes jeudi. Les hebdomadaires sont parus et ils reviennent sur l'attaque contre Salman Rushdie.
L'islamisme contre la liberté, en une de l'Express aujourd'hui. Les 33 ans qui séparent la fatwa de l'ayatollah Khomeini de sa mise à exécution ont vu les polémiques se tendre toujours plus sur les croyances personnelles au détriment de ceux qui veulent faire prévaloir la liberté de s'exprimer, analyse l'hebdomadaire qui publie aussi plusieurs réactions, notamment celle de l'écrivain Alain Bankou, un ami de Salman Rushdie, avec les versets sataniques. Salman Rushdie nous a délivré son corps, écrit-il. C'est lui, paradoxalement, qui m'a fait m'intéresser à la religion musulmane et au Coran. Grâce à lui, j'en ai enfin entrepris la lecture. Rushdie, l'homme qui rit, c'est le titre du long portrait consacré à l'écrivain dans L'Obs, récit d'une vie, la mort aux trousses.
L'Obs qui a choisi de consacrer sa couverture aux animaux.
Eh oui, animal thérapie, ces amis qui nous font du bien. Ils ne mangent plus les restes, mais des croquettes bio au CBD. Ils boivent de l'eau des viandes.
C'est très bon pour eux quand même, tout ça.
Quand ils ne sont pas sur nos genoux au restaurant, une vingtenaire croisée dans le 15e arrondissement de Paris raconte qu'elle fait la queue tous les matins chez son boucher pour acheter un steak de 30 grammes pour son chien. À mesure que nous nous éloignons de la nature, explique le sociologue Christophe Blanchard, nous nous livrons à des rapports fusionnels avec nos animaux. L'animal responsabilise, oblige, contrainte, cadre. Il est aussi créateur de liens sociaux, soutien émotionnel. Et quand certains se blottissent avec leur chien dans le canapé, d'autres avalent les kilomètres sans jamais pouvoir s'arrêter. Ultra trail, ces sportifs qui repoussent leurs limites à l'extrême. C'est-à-dire ce matin dans le Figaro, les courses de plus de 100 kilomètres se multiplient. Elles sont de plus en plus dures. Alors pour beaucoup, c'est une passion, rien d'autre. Mais pour certains, c'est devenu une addiction. Le besoin irrépressible de pratiquer une activité sportive, ça porte même un nom, la bigorexie, des sport addicts qui font jusqu'à 6 heures de sport par jour jusqu'à l'épuisement.
Oui, alors moi je suis clairement pas adepte de la bigorexie. Il faut s'y mettre. Et on salue quand même le chihuahua de notre programmatrice Isabelle Moureau qui en effet crée du lien social à l'intérieur de la rédaction de Radio Classique. On va terminer à l'Académie française et ses rendez-vous avec les présidents.
Et dernier épisode de la série d'été de l'Express consacrée donc au secret de l'Académie française. On apprend ce matin que chaque nouvel académicien est reçu à l'Élysée par le chef de l'État. Ce n'est inscrit dans aucun texte, mais c'est une tradition, un adoubement, explique même Hélène Carrère d'Encausse, la tsarine du Quai Conti. Jacques Chirac, écrit l'Express, n'a pas laissé le souvenir d'un président pénétré par sa mission de protecteur. Mais en 2001, le chef de l'État accueille la romancière Florence Delay et se montre dragueur, écrit toujours l'Express. « Bonjour maîtresse », lance-t-il en lui faisant le baise-main, en féminisant le maître qui s'applique aux immortels. Pour François Hollande, l'Académie a beaucoup compté, estime Hélène Carrère d'Encausse, alors que François Mitterrand, lui, n'aimait pas beaucoup cette institution conservatrice. Avec Nicolas Sarkozy, la discussion finit souvent par évoquer Nicolas Sarkozy, écrit toujours l'Express, qui glissera d'ailleurs, l'ancien chef de l'État, à plusieurs élus, qu'il verrait bien Souchon et Cabrel à l'Académie, sans succès pour le moment.
On verra peut-être qu'un jour Alain Souchon ou Francis Cabrel entreront à l'Académie française. Merci beaucoup Baptiste Gabory. On vous retrouve bien entendu demain à 8h35 pour cette revue de presse. À demain. Restez avec nous, il est 8h43. Dans un instant, nos esprits libres, on échangera avec le neuropsychiatre et auteur Boris...